Monsieur Gilbert Ongbor, bonjour.
Oui, bonjour.
Le développement économique des pays africains passe par une agriculture efficace. Est-ce que les performances agricoles des pays que le FIDA appuie sont rassurantes?
Oui, la situation est en amélioration. Évidemment, nous ciblons toujours les populations qui sont les plus déshéritées, dont le besoin est plus criard. De ce point de vue-là, nous savons que c'est des communautés où est-ce que la productivité peut être un problème et donc la compétitivité. Donc, de ce point de vue, je comprends très bien votre question. Mais lorsqu'on voit l'évolution des 5-10 dernières années, où est-ce que progressivement la productivité est clairement en augmentation, mais pas encore au point d'être toujours concurrentiel.
Vous n'êtes pas encore satisfait?
Non, nous avons encore beaucoup de boulot à faire. Mais en même temps, il faut garder à l'esprit qu'en moyenne, en Afrique, par exemple, les 2/3 de la population est rurale. Et donc, si nous ne mettons pas l'agriculture, incluant l'élevage, l'aquaculture, la pisciculture et la transformation, donc la chaîne alimentaire, si nous ne mettons donc pas cette agriculture au centre de nos politiques de développement, je pense qu'on risque de rater le bateau.
Dans nombre de pays, le secteur agricole est confronté à de sérieux problèmes. Je vais évoquer d'abord les changements climatiques. Cela constitue-t-il un défi pour vous aussi?
Écoutez, il y a un mois et demi, j'étais encore à Maputo, après le cyclone en Idai, ou bien en Indonésie, lorsque nous avons vu aussi le tsunami de l'année passée. Clairement, les conditions météorologiques de plus en plus extrêmes ont un impact direct sur l'agriculture. Il faut garder aussi à l'esprit que l'agriculture, jusqu'à présent, c'est quand même 25% des émissions de gaz à effet de serre, c'est 80% d'utilisation des réserves d'eau souterraine. Et donc, clairement, oui, le changement climatique aussi, ça a un impact direct. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le FIDA préconise qu'il y ait de plus en plus d'attention, non seulement sur la mitigation, mais davantage sur l'adaptation en milieu rural.
La situation sécuritaire représente aussi un enjeu important pour certains pays comme le Mali, où le secteur en reçoit indubitablement un coup. C'est inquiétant, non?
C'est très inquiétant et l'histoire est toujours là pour nous le rappeler. En quelques semaines ou même en quelques jours, 20 ans, 30 ans d'efforts de développement peut couler. Hein? Donc il n'y a pas de pérennisation des actions de développement s'il n'y a pas la sécurité. Évidemment, on ne saurait jamais parler de sécurité s'il n'y a pas de développement. C'est pour ça, et d'ailleurs, j'étais très ravi des discussions que nous avons eues lors de l'audience que le chef d'État a bien voulu nous accorder.
Le
président malien Ibeka et le président Keïta, où est-ce qu'il a insisté sur la nécessité de travailler sur les deux volets.
Et ça ne décourage pas vos efforts
Non, tout au contraire. Loin de nous décourager, ça nous renforce, puisque malgré les challenges que cela pose, l'on réalise que nous sommes dans la bonne direction.
Et justement, grâce à des projets que les États mettent en place avec l'appui des institutions, enfin, l'appui d'institutions internationales comme celles que vous dirigez, beaucoup de jeunes parviennent à être retenus dans leur pays. L'espoir est-il permis?
Non, nous avons des projets en ce sens ici au Mali, au Sénégal aussi et ailleurs. Ce que nous croyons, je l'ai toujours dit, la migration, c'est vraiment un atout pour le monde. Mais il faudrait que nous fassions tout pour que cette migration soit une décision volontaire, que les gens ne se sentent pas dans l'obligation d'immigrer ou d'émigrer pour défendre son pain du jour. Donc, c'est vous dire que les programmes que nous mettons en œuvre afin d'attirer suffisamment la jeunesse peuvent être la base de la solution à long terme.
Deux conflits atroces entre Peuls et Dogons ont eu lieu ces derniers temps. Ce sont des agriculteurs et des éleveurs. Serait-il envisageable pour vous d'intervenir avec des projets ou de l'argent pour essayer d'enrayer ces violences?
Lorsque vous parlez de peut-être envisager une intervention en termes d'argent, je suis un peu plutôt sceptique parce que je pense que le problème est plutôt un problème vraiment engravé dans les relations non seulement interethniques mais aussi interprofessionnelles entre les éleveurs et les agriculteurs. Moi, j'ai vécu ça lorsque je servais mon gouvernement. Évidemment, il faut envisager des solutions de court terme pour arrêter, excusez-moi l'expression, pour arrêter le massacre, comme on le dirait quand on était jeune. Mais en même temps, c'est vraiment les solutions de moyen et long terme qui vont marcher. De ce point de vue, et revenir aussi à votre question, oui, le FIDA peut servir dans la mesure de nos moyens. Et par exemple, je pense au Tchad, où on a développé un projet qui sert à aménager des corridors de pâturage pour les éleveurs et créer un comité de gestion entre les différents villages et les différentes communautés. Parce que parfois, c'est comme on le dit souvent, combien de guerres ont été enclenchés simplement suite à une mauvaise compréhension. Et donc, c'est une question organisationnelle, une question de favoriser le dialogue.
Monsieur Gilbert Ongbor, je vous remercie.
Merci beaucoup de m'avoir interviewé.